RCF.
h 10 sur RCF, c'est l'heure du 18-19 en région que présente ce soir Jean-Pierre Benoît.
Le magazine régional sur RCF Reims-Ardennes avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes avec bien sûr nos invités. Nos invités sont nombreux, c'est ceux du mercredi. Robert Reverger, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre Benoît, bonsoir.
On retrouvera dans un instant Fernand Tavares, journaliste parlementaire. On parlera bien sûr des maires puisque tous les jours on retrouve un maire. Ce sera Patrick Simon, le maire de Bouleuse en fin d'édition. On parlera de l'espace missionnaire Montagne Val d'Or avec Bruno Rigobert et puis d'un spectacle à Arena de Reims. Ce sera dimanche 14 avril, un spectacle avec Bernadette, un spectacle qui tourne dans toute la France. On écoutera Éléonore de Galard. Voilà le programme de notre édition. On est en direct à 18h11. Alors on va commencer cette édition quand même par une nouvelle d'actualité dont tout le monde parle depuis déjà quelques heures. C'est la disparition d'un élève de seconde du lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Évidemment, nous n'avons pas de commentaires à faire puisque le procureur de la République n'a pas donné de conclusion pour l'instant sur ce qui s'était réellement passé. On aura l'occasion d'en savoir plus, mais nous sommes bien sûr en communion et en pensée et en prière aussi pour la famille de ce jeune adolescent d'une quinzaine d'années d'une classe de seconde du lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle de Reims. L'actualité, c'est avec vous, Robert Reverger. Vous êtes en direct. Bonsoir, Robert.
Bonsoir, Jean-Pierre Benoît.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en un mot, quel est le mot dont vous allez parler, le mot du jour?
Eh bien, nous allons parler de région.
Alors, quelle est l'étymologie de ce mot, le mot région?
Région vient d'un mot latin, regio, qui vient lui-même d'un autre mot latin, regere, qui a donné régir, et qui exprime le pouvoir suprême, puisqu'il correspond à rex, le roi. Alors, en latin, la regio est à la fois une direction et un territoire. Chez les Romains, une région s'appelait provincia, mot qui donnera le mot Provence.
Alors ça, c'était à l'époque de l'Empire romain, Robert ?
Oui, au 2e et 3e siècle de notre ère. Alors il faut noter que dans l'Antiquité romaine, les provinces sont des régions situées hors de l'Italie, c'est-à-dire des régions qui ont été conquises.
Alors sont-elles nombreuses ces régions conquises ?
Oui, on en comptera jusqu'à une quarantaine qui couvriront la totalité du pourtour méditerranéen.
Alors qu'en était-il à l'époque, hein? Alors là, vous allez nous apprendre des choses pour la Gaule.
Eh bien, la Gaule comptait alors 4 provinces, c'est-à-dire la Gaule narbonnaise, la Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise et la nôtre. Je n'oublie pas que nous sommes une radio régionale, bien sûr. La Gaule belgique, dont faisait partie le site dit du Vieux Reims, qui était situé sur les communes de Variscourt et Condé-sur-Suippes. À cet ensemble succéda vers 80 avant notre ère le site de Durocortorum, c'est-à-dire aujourd'hui Reims. Et puis une information importante quand même, c'est que Astérix et Obélix y feront étape.
Vous avez oublié Idéfix, hein ?
Oui, bien sûr.
Parce que bien sûr, ils étaient toujours là. On imagine que les choses ont évolué jusqu'à la Révolution.
Oui, avant la Révolution de 1789, le royaume de France a été divisé en provinces historiques au nombre de 39. La taille de ces régions issues de l'histoire féodale correspondait grosso modo aux régions actuelles.
Ce qui va d'ailleurs fortement changer.
Oui, en 1789, ces provinces seront supprimées et le territoire français sera divisé en 83 départements. Alors plus tard, après la Première Guerre mondiale, seront créées ce qu'on appela des entre guillemets régions économiques, puis 19 toujours entre guillemets régions touristiques qui d'ailleurs n'ont pas perduré.
Après ce bref détour historique, Robert Reverger, on peut en venir aux régions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Quelle est la définition territoriale actuelle de la région?
La région sert à délimiter un territoire plus limité que la nation. Alors je vous rappelle que nation, ça vient du verbe naître. Alors, si vous voulez, on peut faire un peu de vocabulaire pour préciser le sens des mots. Notre nation, c'est le pays dont nous sommes natifs. On parle alors de droit du sol, et notre patrie est, quant à elle, le pays de nos pères, du latin pater, on parle alors de droit du sang.
La région, c'est donc, on peut résumer, même si c'est forcément toujours approximatif, une unité territoriale importante à l'intérieur d'un pays.
Oui, depuis des siècles, en effet, le mot région insiste sur l'unité d'un territoire assez important à l'intérieur d'un pays. On parle dès lors de région naturelle, administrative ou économique.
Alors, quelle est la définition exacte, actuelle, d'une région et de quand date, en France, la création des régions sous leur forme actuelle ?
Leur création remonte à 1956, mais elles ne sont régies par la Constitution que depuis 1958. Alors, elles sont issues de la décentralisation. Ces régions se définissent comme des collectivités territoriales dotées, entre guillemets, d'une personnalité juridique, d'une liberté d'administration et des services administratifs déconcentrés de l'État.
On peut dire quand même qu'il y a maintenant une importance politique et économique des régions aujourd'hui.
Oui, bien sûr, c'est bien dans les régions que se produit et s'équilibre, parfois malheureusement assez mal, la richesse nationale.
Alors, d'autres pays d'ailleurs, en Europe ou ailleurs, ont évidemment une vision différente de leur découpage territorial.
Oui, par exemple, les Landes allemands ont plus d'autonomie.
Tout comme les provinces canadiennes, par exemple.
En effet, oui.
Alors, quel est le nombre de régions dans notre pays ?
Alors, depuis le 1er janvier 2016, la France compte 18 régions, 13 en métropole dont la Corse et 5 en Outre-mer.
Alors, par qui sont gérées actuellement les régions ?
Eh bien, en tant que collectivité, les régions sont dotées de deux assemblées, une assemblée délibérante, le conseil régional, et une assemblée consultative, le conseil économique, social et environnemental. L'exécutif, quant à lui, est aux mains du président du conseil régional.
Alors, au moment où on parle toujours de millefeuilles territoriales, quel est le champ d'intervention des régions ?
Que peut faire
une région ?
Eh bien, ce champ est très large. Il concerne notamment la gestion des lycées et celle des transports interurbains, ainsi que le développement, évidemment, économique du territoire.
Alors, quelques mots, quelques chiffres à propos de notre région Grand Est aujourd'hui, qui est quand même une très grande région.
Tout à fait. La région Grand Est est une région administrative qui résulte de la fusion, le 1er janvier 2016, des anciennes régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Alors, la préfecture est à Strasbourg. La région est formée de 10 départements, dont 4 de Champagne-Ardenne. Elle compte environ 5 600 000 habitants, ce qui la situe d'ailleurs au 6e rang des régions françaises, et cela sur 57 000 km². Alors, au plan administratif, elle compte 169 conseillers régionaux sous la houlette du président, le sparnassien Franck Leroy, depuis janvier 2023.
Alors, on vous pose la question tous les mercredis, Robert, donc oui. On va vous la poser aujourd'hui. La semaine prochaine, quel est le mot que vous allez mettre en valeur ?
Eh bien, nous parlerons de précarité.
Et oui, c'est aussi un mot d'actualité. Merci Robert Reverger d'avoir été avec nous. Et à très très bientôt sur RCF.
Avec plaisir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Avec nous, Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes. Jean-Luc Warsmann, bonjour.
Bonjour.
À mes côtés, Fernand Tavares, journaliste parlementaire, qui va vous poser quelques questions. La première que j'ai envie déjà pour mettre un petit peu dans l'ambiance, comment vous vivez cette période assez incertaine et même parfois d'inquiétude, puisque les parlementaires ont été surpris la semaine dernière, de trouver qu'il y avait un tel déficit de l'État et qu'il y avait quand même des difficultés économiques que Bercy n'avait pas forcément mis en lumière assez rapidement. Quel est votre sentiment ?
Une perte de confiance. Une perte de confiance de vie Bruno Maire totale. Le rapporteur général du budget du Sénat a donc été, il y a quelques semaines, à Bercy et a demandé les pièces, a demandé les documents, a demandé à voir, à lire. Et on a découvert que le 9 décembre, les services de Bercy avaient dit au ministre qu'on avait un trou. Et le ministre nous l'a pas dit, à nous, parlementaires, et aux Français non plus, et nous a dit des choses fausses, et nous a fait un 49-3 faux. Et donc, oui, vraiment, aujourd'hui, on vit une situation que je n'ai jamais vécue.
Une question de Fernand Tavares.
Alors, il était question, et il est toujours question, de retrouver 10 milliards et d'économiser 10 milliards sur l'ensemble des ministères et même ailleurs, y compris dans les collectivités locales. Aujourd'hui, Bercy annonce que pour l'année prochaine, il faudra également trouver 10 milliards à économiser. Qu'en pensez-vous ?
Ben, il annonce même qu'il faudra trouver 20 milliards.
Ben oui, 10 et 10, 20, effectivement.
C'est pas 10, c'est même 20. On peut pas continuer comme ça. Là, on fait des chèques en bois, des chèques en crédit, et c'est pas possible. Bon, mais la première solution, c'est évidemment la croissance économique. C'est évidemment ça. Plus le pays se développe, plus il y a des actions économiques positives, plus on gagne de l'argent, et plus l'État gagne de l'argent, évidemment. Mais ça ne suffira pas, vraisemblablement.
Alors, toute autre question, vous êtes à la commission des lois. Et les Français veulent, en matière de sécurité, cette fois on change de sujet, un certain nombre de dispositions. On voit ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées, ça s'accumule de semaine en semaine, sinon de jour en jour. La situation devient même dramatique puisqu'on déplore non seulement des blessés, mais également des morts très très jeunes. Comment peut-on faire face à tout cela? Est-ce qu'il faut impliquer de plus en plus non seulement la responsabilité des enseignants, ça c'est sûr, mais surtout la responsabilité des parents, c'est à l'ordre du jour.
Évidemment. Un, responsabilité, parents, évidemment. Deux, rapidité de la justice. On peut pas continuer à avoir une justice qui est aussi lente. Trois, je suis le papa des lois qui, en France, ont permis de sanctionner tous les délinquants en leur privant de leurs biens, et je suis en train de faire voter une nouvelle loi qui est passée à l'Assemblée, qui est passée au Sénat et qui va être votée définitivement sur le sujet, sanctionner les voyous par les biens. C'est aussi pour moi une manière très concrète, très efficace d'être efficace, comme je dis.
Alors d'autre part, là c'est l'actualité qui nous le dit aujourd'hui, et même dans quelques minutes, il va y avoir un match de football très important ce soir. Voilà qu'il y a un bruit qui court, ou que l'on fait courir d'on ne sait où, comme quoi il y aurait une menace islamiste, ce qui fait que les forces de l'ordre en France sont sur les dents, on entoure le Parc des Princes, on entoure bien sûr tout le monde du football, les supporters et autres, au cas où. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que cela a un rapport, selon vous, entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et entre les attentats qu'il y a eu en Russie?
Donc, je n'ai pas d'avis. Hein. J'ai eu à plusieurs reprises des responsabilités importantes. J'ai présidé la délégation du renseignement. Voilà. Bon, ceci étant dit, tout doit être fait et la France est un pays qui se défend bien. Voilà. Donc j'ai ma totale solidarité vis-à-vis du gouvernement pour défendre le pays sur le sujet.
Il y a une autre question qui tracassait les parlementaires aujourd'hui. C'est venu à plusieurs reprises à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce sont les dernières rumeurs de réforme dans la fonction publique, y compris une idée que l'on pourrait, après tout, sur certains fonctionnaires, exiger ou faire en sorte que certains puissent être licenciés, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas avoir à vie, comme aujourd'hui, la garantie de l'emploi, dans certaines circonstances, évidemment. Est-ce que ça vous choque?
Franchement, c'est vraiment pas le... Non, enfin, oui, ça me choque, oui. C'est pas la priorité. Quand on s'engage en fonction publique, on s'engage pour sa carrière. Donc, c'est vraiment pas le sujet. Vraiment pas de sujet.
Est-ce que vous sentez qu'en matière européenne, entre les États membres, il y a quand même aujourd'hui une certaine solidarité? On a parlé des finances tout à l'heure, c'est vrai, mais en matière de défense européenne, on en parle depuis des années et des années. Aujourd'hui, est-ce que vraiment il est urgent que ça se fasse?
Oui, et on n'a jamais autant avancé. Je pense que beaucoup de pays européens rejoignent maintenant ce qui est la conception de la France, qui est il faut une défense européenne.
Alors,
Et la guerre en Ukraine, dans sa première phase, a été une catastrophe européenne. C'est-à-dire que des pays européens ont été achetés pour des milliards aux États-Unis, et tout ça affaiblit l'Europe. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment continuer à travailler sur l'idée que il faut qu'on se défende, quel que soit le vote aux États-Unis d'Amérique, les armes, il faut qu'on les fabrique chez nous. Que ce soit nos ouvriers qui travaillent et notre savoir-faire qui progresse.
Autre sujet qui concerne toujours l'Europe, la fameuse PAC, la politique agricole commune. Dans le département des Ardennes, comme dans d'autres départements de la région, bien sûr, les agriculteurs ont été en première ligne et ils attendent beaucoup de choses. Est-ce que là-dessus, vous rencontrez les uns et les autres? Est-ce qu'ils commencent à être rassurés ou encore en attente?
Non, ils sont très inquiets, mais si vous voulez, comme tous les chefs d'entreprise, on a un problème de surtransposition. J'ai travaillé et je travaille à l'Assemblée sur ce sujet. Lorsqu'on a une norme européenne, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on réduit les différences de normes en Europe. Et le problème, c'est que lorsqu'on a une norme européenne, la France, elle garde ses anciennes règles, elle les ajoute. Et donc, les acteurs français, les agriculteurs, mais pas que, les chefs d'entreprise, ils ont à appliquer, à respecter les normes européennes nouvelles et les normes françaises. Et ça ne peut pas durer. Donc, on a un vrai sujet de surtransposition générale pour l'économie française. Et quand vous voyez les chiffres du commerce extérieur, enfin c'est dramatique pour la France, quoi. On n'a jamais été aussi déficitaire. Alors, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Enfin, l'Europe a été faite d'abord pour l'agriculture, et quand vous voyez le déficit agricole et déficit commercial français, c'est vraiment un exemple, ça ne fonctionne pas.
Dernière question qui concerne l'Europe. À l'heure où nous parlons, la Commission européenne examine un sujet sensible, c'est le fameux pacte d'asile-immigration. Alors, est-ce que pour une fois, tous les pays européens vont être sur la même longueur d'onde, ce qui au moins conduirait les uns et les autres à avoir la même attitude, notamment face à l'arrivée massive d'immigrés pour les contrôles, ce qui éviterait de se passer la balle de l'un à l'autre?
Il faut vraiment avoir un discours commun et envoyer un message aux populations dont le rêve pourrait être de venir chez nous en disant non. Votre vie, elle est chez vous, elle est dans votre pays, et ce n'est pas venir chez nous.
Voilà, c'était, et on le remercie, le député des Ardennes, Jean-Luc Warsmann, et il était au micro de RCF, interrogé par Fernand Tavares, qu'on retrouve souvent le mercredi, journaliste parlementaire, et qui a enrichi le débat de ces questions toujours intéressantes. Il est 18h28, nous sommes en direct sur RCF Reims-Ardennes. On va rappeler un certain nombre de rendez-vous. Une émission spéciale, demain matin, en direct, de 7h à 7h, presque 7h30, disons 25-26 minutes, avec Catherine Vautrin, ministre du Travail, ministre de la Santé et des Solidarités. On évoquera bien sûr les sujets d'actualité, en particulier, vous savez qu'aujourd'hui, la proposition de loi sur la fin de vie a été proposé au Conseil des ministres et a été rendu public. On aura l'occasion de l'interroger sur cette question. Et puis, bien sûr, sur les questions du travail, sur la question des solidarités, il y a beaucoup de sujets. Et puis, sur l'ambiance un peu générale. On aura l'occasion aussi de rappeler que vendredi matin, sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes, on retrouvera Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui actuellement se trouve en Égypte. Et puis, dans un instant, le journal régional avec Alexis Claudrette, mais on n'a pas incorporé les nouvelles du jour, donc on n'aura pas l'occasion d'y revenir dans cette édition, mais je le fais juste avant. Vous savez que cette journée a été marquée en particulier dans les médias nationaux qui relayent très très largement l'information. Un jeune qui est en seconde au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle est décédé à l'internat la nuit dernière, et bien sûr beaucoup de questions se posent évidemment. On aura l'occasion d'en savoir un peu plus après les déclarations du procureur de la République. En tout cas, on est de tout cœur dans la prière et dans l'émotion avec la famille de ce jeune décédé. Il est 18h30, c'est l'occasion de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz.
Merci Jean-Pierre pour ce passage de relais. Les titres de ce mercredi 10 avril. À Épernay, la 13e édition Vitivini est prévue du 15 au 18 octobre prochain au Millésium avec une réorganisation des accès et des pôles d'exposition. Explication. La responsabilité sociétale des entreprises est un sujet dont on entend de plus en plus parler et de nombreuses sociétés accompagnent les professionnels dans leur transition énergétique. Zoom sur Initial Expertise, fondée en 2019 par Stéphane Flandre.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Des nouvelles du président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui est en Haute-Marne pour deux jours. Son itinéraire a débuté ce mercredi en fin de matinée à Chaumont pour l'inauguration du gymnase Louis Chaillot. Nouvelle inauguration en fin d'après-midi à Faylbio, cette fois du centre de formation professionnelle et de promotion agricole à l'École nationale d'ostréiculture et de vannerie. Il participe actuellement à une réunion débat sur l'action régionale en ruralité Grand Est. Son parcours à travers la Haute-Marne continue demain jeudi. Le club des entrepreneurs champenois a dévoilé les détails de la prochaine édition du salon Vitivini qui se déroulera du 15 au 18 octobre prochain au Millésium d'Épernay. Pour le président du club, Christophe Labrouillère, la formule reste la même.
Ça dure 4 jours, on garde le format de 4 jours. C'est des rencontres essentielles, parce que c'est là où on rencontre un maximum de clients en peu de jours. Tous les clients du vignoble, hein, que ce soit les ouvriers viticoles, les vignerons, les responsables de COP, les maisons de champagne. Ça fait une base de travail pour l'année suivante, hein, pour 2025. Suite aux vendanges, on a toujours l'information de tous les projets qui vont se dérouler en Champagne pour 2025, souvent au salon. Donc ça nous permet de nous projeter dans le business pour l'année d'après. Puis c'est une rencontre essentielle de tous les acteurs du champagne, mais surtout les acteurs connexes. Ça montre aussi toutes les innovations qu'il y a en champagne, puisqu'on fait toujours un point sur les nouveautés et les innovations, parce que le champagne est une terre sur laquelle il y a eu beaucoup de nouveaux produits, de découvertes, de créativité pour le vin, mais aussi pour travailler les terres.
Cette 13e édition promet d'apporter son lot de nouveautés, avec pour objectif principal l'amélioration de l'expérience des visiteurs.
Alors cette année, on aura une entrée et une sortie identiques. La clientèle va arriver au centre du salon, donc va pouvoir se dispatcher, que ce soit dans le pôle service, le pôle viticole ou le pôle vinicole. Et puis après, on va mettre l'emploi au cœur du pôle service. Ça, c'est le côté professionnel. Et au niveau convivial, on va essayer d'animer un peu le salon à travers deux soirées. Une soirée amicale avec tout l'ensemble des adhérents et une soirée un peu plus festive avec l'ensemble de notre clientèle et nos adhérents.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. On vous en a déjà parlé, mais on vous rappelle le rendez-vous qu'il est encore temps de cocher dans votre agenda. Mardi 16 avril à 18h30, dans le cadre des grandes conférences dans la grande salle de la mairie de Reims, sera abordé le thème « Croire pour vivre » en présence d'Éric Courteau, professeur à la faculté de sciences, de Gérard Lemarié, philosophe, et de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. L'entrée est gratuite, sans réservation, une date donc que vous pouvez cocher dès maintenant dans l'agenda. Zoom sur Initial Expertise, une entreprise marnaise implantée à Champigny, près de Reims, créée en 2019 par Stéphane Flandre. Elle traite de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, sur les sujets de décarbonation et d'optimisation énergétique. Stéphane Flandre, PDG fondateur d'Initial Expertise, nous en dit un peu plus.
Concrètement, en fait, on accompagne nos clients qui ont du patrimoine immobilier, une industrie, un bâtiment tertiaire, et on l'accompagne dans toute une stratégie, en fait, d'optimisation des flux énergétiques. Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle la RSE, dont on entend beaucoup parler. Et effectivement, l'idée, c'est aussi de faire des économies d'énergie, hein, faut être clair, hein, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, le prix de l'énergie qui a beaucoup augmenté. Et en fait, ça devient, alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça devient une opportunité pour vraiment regarder les flux énergétiques et vraiment faire très très attention à dépenser juste ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire tourner un bâtiment, une industrie, etc.
Des prestations à destination des entreprises comme les maisons de champagne dans la Marne ou encore des collectivités locales et des associations comme FLAP qui porte le cabaret vert dans les Ardennes, une dimension écologique de plus en plus prise en compte par les professionnels de notre territoire mais qui s'exporte aussi très bien à l'international.
Absolument, c'est eux qui tirent un petit peu aussi ces sujets-là, hein, faut être clair, hein, parce qu'ils ont aussi les épaules pour pouvoir mener ces stratégies, hein, sur le moyen, sur le long terme. Et donc effectivement, on les accompagne sur une stratégie pluriannuelle pour avoir une décarbonation globale de leurs activités. Il nous arrive de travailler à l'international, hein, nos derniers sujets étaient en Birmanie notamment, en Belgique également, mais vraiment on a comme projet de s'intégrer et de s'implanter vraiment très très fortement sur la Marne et les Ardennes notamment. Moi je suis un Rémois, pure souche, alors même si je suis un peu parti pour mes études, etc., moi, Reims et la Marne et les Ardennes sont vraiment mes secteurs de développement privilégiés. Et oui, donc notre zone, elle est plutôt sur Marne-Ardennes-Aube.
Stéphane Flandre, président, directeur général, fondateur d'Initial Expertise au micro de RCF Reims-Ardennes. Si vous êtes chef d'entreprise et intéressé par la démarche RSE, vous pouvez prendre contact avec Initial Expertise en passant par leur page Facebook ou LinkedIn. Sport, basket, Chalorins a réussi la passe de 5 hier soir en dominant Aix-Maurienne sur son parquet chalonnais lors de la 29e journée de Pro B, 5e victoire consécutive donc, un succès qui permet à l'Alliance champenoise de virer en tête avec un bilan positif, 15 victoires pour 14 défaites et de conforter sa place dans le top 8, synonyme de play-off à la fin de la saison régulière. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF avec Jean-Pierre Benoît et ses invités.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Avec nous aujourd'hui Bruno Rigobert. Bruno Rigobert, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes membre de l'espace missionnaire, comme on dit, Montagne Val d'Or.
Tout à fait, oui.
Alors justement, dans quelques jours, ça sera du 13 au 18 avril, dans nos villages, l'Église catholique est en mission. Osons la rencontre sans en faire une montagne. Alors là, il y a peut-être un jeu de mots quand même.
Oui, tout à fait. Cette montagne, c'est la fameuse montagne de Reims qui coupe l'espace missionnaire Montagne Val d'Or en deux. Hein, puisqu'on a un côté sud, côté Ailly, et un côté nord, côté Verzy.
Et vous, vous êtes dans quel côté?
Ah, ben moi, j'ai envie de dire que je suis un fils de Saint-Bal, et donc Saint-Bal vivait dans la forêt des faux de Verzy et des bois de Bouzy. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt des deux côtés.
Vous, c'est plutôt Bouzy, d'ailleurs. Il faut rappeler que dans cet espace, vous êtes député aux obsèques, c'est-à-dire que vous faites beaucoup pour les obsèques, pour la vie de la paroisse et de l'espace missionnaire en général. Vous êtes impliqué hein, dans cet espace.
Oui, oui,
alors la mission s'est depuis quelques années lancée dans le diocèse de Reims avec l'arrivée de Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Mmh. Vous disiez quand vous étiez jeune, vous étiez en permanence en mission quand vous rencontriez les gens parce qu'il y avait plus de facilité de rapport qu'aujourd'hui. Quand on entre dans un beau village du vignoble, parfois, bon, on voit pas grand monde. Il y a quelques années, peut-être que c'était plus facile pour des jeunes, pour des gosses, rencontrer les gens.
Je suis un enfant des années 60, hein. Donc en 60-70, on jouait dans les rues du village. Et puis on croisait les personnes âgées qui allaient faire leurs courses. Et puis nos parents nous obligeaient à aller visiter les personnes âgées au coin de la rue. Nos grands-parents, on les voyait une fois par semaine, maternelle et paternelle. Enfin, c'était une évidence que de prêter attention à son prochain. Alors que maintenant, on connaît notre vie qui est speed, comme on dit, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone toujours à la main. Et donc, on s'occupe un peu moins de son prochain.
Alors, depuis 2019, il y a une fraternité des missionnaires diocésains pour soutenir le projet pastoral qui rencontre, bien sûr, eux aussi, les personnes dans les espaces missionnaires. Ils vont sonner chez les gens, ils vont à la rencontre.
Tout à fait, parce que être en mission, c'est se mettre en route, aller vers l'autre. Donc, ces gens de la mission vont aller, avec les prêtres, les diacres, les laïcs, vont se partager les rues du village, là où ils sont, et puis vont aller taper aux portes pour Pour annoncer la bonne nouvelle, Jean-Pierre, Christ est ressuscité. Donc ça, il faut aller le dire aux gens, quoi. Et puis surtout, rendre visite aux plus pauvres. Et quand je parle des plus pauvres, c'est la personne âgée isolée, c'est la personne malade, c'est les enfants, les petits-enfants. Et pour cela, ben, la mission va se rendre aussi dans les collèges, va se rendre dans les EHPAD. Voilà la mission en vie. Voilà.
Alors, ce sont des chrétiens qui viennent à la rencontre, dans la joie, un échange simple et respectueux des convictions, mais il y a aussi des temps de prière et d'animation qui vont être proposés. Et au cours des contacts directs, parfois, quand on sent qu'on peut éventuellement parler de la foi, parler de l'évangile, ça va au-delà d'une simple bonjour, bonsoir, mais avec beaucoup de respect pour les personnes.
Bien sûr, partout où on va entrer dans les maisons, on peut bien sûr annoncer la résurrection du Christ, mais on voit si ça dérange ou pas. On se met à la disposition de la personne.
Alors, je vous dis, Bruno, certainement qu'il faut des qualités d'écoute pour celles et ceux qui font faire la mission, parce que il faut savoir écouter, savoir trouver le mot juste, sentir les choses.
Effectivement.
Et ça, c'est pas toujours évident.
La première qualité du missionnaire, c'est d'écouter avant d'annoncer, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de dire quand même que c'est un monde de se dire catholique et de pratiquer tous les dimanches, et c'en est un autre que de se mettre en route pour aller taper aux portes et annoncer la bonne nouvelle.
Vraiment. Alors justement, Bruno Rigobert, quel est le programme? Est-ce qu'on a un programme pour cette semaine qui va démarrer samedi 13 avril pour s'achever jeudi 18 avril? Alors, où et quand? Comment
Alors,
ça se passe?
Les villages de la mission sont les suivants. C'est Verzy, Verzenay, Manchenot-Villers-Alleran, Chigny-les-Roses, Rilly-la-Montagne. Voilà un peu les villages
que vous connaissez par cœur.
Voilà, et que la mission va traverser.
Alors, le premier rendez-vous, c'est à Chigny-les-Roses. C'est samedi, le 13 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une messe, je crois, le soir.
Oui, on ouvre à 18h30 par une messe. Et puis après, il y a un repas partagé avec tous les gens qui le souhaitent. Et une veillée de louange. Alors, veillée de louange, c'est une veillée pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il va nous offrir la semaine à venir. Hein, s'offrir à lui et lui qui s'offre à nous.
Samedi 13 avril, c'est à Chigny-les-Roses. Le dimanche 14, cette fois, on fait quelques kilomètres. Et où va-t-on, Bruno Rigobert?
Alors, nous commençons la journée par une messe, 10h30. Encore un repas partagé, parce qu'on aime partager ces repas. Lorsqu'on partage, eh bien, il se dit plein de choses, on se libère, on se connaît mieux. Et après le repas, eh bien, il y aura une marche sur la ligne du CBR et un jeu de piste organisé.
Alors, le CBR, il faut rappeler ce que c'est. Vous connaissez par cœur, mais nos amis des Ardennes, ils se disent, qu'est-ce que c'est que le CBR?
Eh bien, c'est le chemin de fer qui reliait tous ces villages et qui nous amenait jusqu'à Reims. Voilà.
Et bien sûr, ce CBR n'existe.
Il n'y a plus que la ligne qui existe.
Il n'y a plus que la ligne de chemin de fer.
Il sera impraticable.
Si vous marchez le long de la ligne, vous ne risquez pas de croiser quand même une locomotive.
Non, quelques
biches.
Alors
ça, c'est à Verzy. Hein,
voilà,
c'est à
Verzy
le dimanche.
14h.
Et puis le lundi, vous restez donc à Verzy. Et là, il y a un temps de formation le matin.
Oui, pour les gens qui vont partir vraiment en mission, marcher dans les villages à la rencontre des habitants du village, eh bien, il y a un temps, une mini-formation. On va expliquer aux gens
comment
pratiquer vis-à-vis de gens inconnus, etc.
Et puis, il y a des visites, forcément.
Visites et prières à l'église de Verzy, de 14 à 17 heures. Et puis, une soirée projection film à la salle des fêtes à 20h. Alors le film, c'est la lettre du pape François au niveau de l'écologie intégrale de
c'est un peu Laudato si,
c'est ça, c'est tiré de là. Oui.
Alors ensuite, si on continue notre petit parcours comme si on prenait le train, notre fameux CBR, après Chigny, Verzy, cette fois où va-t-on?
Alors on a le mardi 16
à Villers-Alleran.
À Villers-Alleran, Manchenot-Villers-Alleran. Visite et prière de l'église le matin. Visite de l'EHPAD de Manchenot et rencontre avec les personnes âgées, etc. Donc la mission va visiter l'EHPAD et saluer les résidents.
Voilà. Ensuite, Verzenay. Alors, Verzenay. Toujours des visites le matin.
Voilà, visite de l'église, prière, visite et rencontre à l'EHPAD de Verzenay, puisqu'il faut savoir que sur notre espace missionnaire, nous avons la chance quand même d'avoir 5 EHPAD, un à Verzenay, un à Manchenot, 2 à Ailly et 1 à Avenay-Val-d'Or.
Ça, c'est pour le mercredi. D'ailleurs, vous allez y participer à cette soirée. Hein, là, vous
bien
êtes
sûr,
là présent. Hein.
Bien sûr.
Et puis, on arrive, si on avance un petit peu plus vite, le jeudi 18 avril, cette fois, on est à Chigny. On revient à Chigny.
À Chigny. Chigny, déjà, nous faisons la visite et la prière à l'église. Et puis, visite et rencontre à l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Rilly. Il y a un collège à Rilly, Sainte-Jeanne d'Arc. Et là, la mission va aller rencontrer les enfants.
Merci Bruno Rigobert d'avoir été avec nous. Alors, on rappelle qu'il s'agit d'une mission dans les villages du 13 au 18 avril, dans la montagne Val d'Or. Osons la rencontre sans en faire une montagne. Merci en tout cas Bruno Rigobert de Bouzy et dans cet espace missionnaire d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très bonne journée.
Merci à vous Jean-Pierre. Merci.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous aujourd'hui, Éléonore de Galard, coproductrice du spectacle Bernadette de Lourdes, proposé à l'Arena de Reims. Éléonore de Galard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, le spectacle que vous proposez à Reims, à l'Arena, dimanche 14 avril à 15h, est un spectacle qui connaît un succès assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? Comment vous l'avez conçu et comment ça marche, comme on dit?
Alors effectivement, on a de la chance puisque ce spectacle sur lequel on a travaillé avec mon associé Roberto Surléo pendant plus de 10 ans connaît un beau succès et on a des retours fantastiques du public et des médias, donc on en est très heureux. Il s'agit tout simplement de Bernadette Soubirous qui dit avoir eu des apparitions à Lourdes et qui fait que Lourdes est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire des millions de personnes qui viennent chaque année en pèlerinage avec espoir d'aller mieux. Et donc sur scène, voilà, c'est une comédie musicale historique. Elle est respectueuse de l'histoire de Bernadette et du message, bien entendu, mais elle s'adresse à tous, un public très large, catholique ou pas, puisqu'on a axé cette histoire sur la réalité historique. On s'est inspiré des procès-verbaux qui existent, d'interrogatoires de Bernadette, pour retranscrire son histoire comme elle l'était. Donc tous les mots que Bernadette prononce sont des mots qu'elle a effectivement prononcés, on n'invente rien. Et puis on ne voit pas la Vierge sur scène, l'idée n'est pas d'imposer quoi que ce soit, l'idée est de raconter l'histoire de Bernadette et de Lourdes. Et c'est une comédie musicale, donc chanter, jouer, chanter, on a 22 artistes sur scène, les musiques sont de Grégoire, les paroles de Lionel Florence Patrice Guérao, et la mise en scène de Serge Denoncourt. Et c'est vraiment un spectacle absolument magnifique et très émouvant, basé sur les relations humaines entre Bernadette, la police, Bernadette et le clergé, Bernadette et sa famille. Voilà, donc tout le monde peut trouver son compte dans ce spectacle.
C'est un spectacle musical, on peut dire. Tout de même, c'est ce qui le caractérise.
C'est absolument un spectacle musical. C'est du théâtre musical, donc il y a toute une partie jouée qui raconte l'histoire, qui retranscrit les interrogatoires. Et il y a évidemment, tout au long du spectacle, une quinzaine de chansons chantées soit en solo par certains personnages, soit avec des chœurs. C'est une vraie comédie musicale.
Et alors, vous rencontrez un succès. C'est vrai que vous allez à Reims le dimanche 14 avril à 15h à l'Arena, mais vous avez déjà fait, j'allais dire, plusieurs scènes en France.
Ah oui, en France, on a joué déjà 2 ans à Lourdes. Malheureusement, on a eu Covid entre-temps, donc on a dû annuler 2 ans aussi. On a commencé en 2019. Et puis, on a commencé une tournée en dehors de Lourdes depuis septembre dernier. Donc, on est passé dans pas mal de villes. On est passé à Paris et puis dans les pas mal de villes françaises où il y a des zéniths. Et je dois dire que l'accueil du public est à chaque fois fantastique et très chaleureux. Et les témoignages sont toujours très nombreux. Les remerciements, même les gens prennent le temps de nous remercier. Donc, c'est une joie pour nous de faire découvrir ce spectacle. Et on est très heureux de vous retrouver à Reims dimanche.
Et à chaque fois, vous remplissez, et c'est ça qui est assez exceptionnel, vous remplissez les salles.
Mais vous savez, alors c'est exceptionnel, c'est toujours exceptionnel pour un producteur, une salle remplie. C'est toujours magique. Mais quand la qualité du spectacle est là, et qu'en plus, c'est pas un simple spectacle de divertissement, c'est divertissant, certes, mais pas que. On ressort de là souvent chamboulé, et on ressort avec des sages, on ressort avec une émotion très particulière, et je pense que c'est ça qui touche les gens, et le bouche à oreille, c'est que les salles se remplissent.
Merci en tout cas, Éléonore de Gallard, d'avoir été avec nous. On rappelle donc la date, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, mais il faut que nos auditrices et nos auditeurs la notent, parce que c'est dimanche prochain. Pas de problème pour réserver, on réserve sur les sites internet.
Oui, bien sûr, on peut réserver sur notre site, qui est bernadettedelaube.fr, ou sur tous les sites habituels, Ticketmaster, Fnac, etc. Et venez, vous, je pense que vous ne serez pas déçus.
Et c'est vrai que quand on regarde les réactions, d'ailleurs c'est dans votre plaquette en quelque sorte, que ce soit le Figaro Magazine, Le Monde, Europe 1, un spectacle musical grandiose, un miracle mélodique, Broadway au pied des Pyrénées, dit même Europe 1, bon ben vous êtes une coproductrice heureuse, Éléonore de Gallard.
Je suis une coproductrice comblée, absolument, absolument. Je vous dis autant. Bon, les médias, c'est une chose. On est très heureux, évidemment, et c'est souvent très difficile à avoir des critiques aussi bonnes. Mais ce qui nous touche le plus, c'est le public. Le retour du public est fantastique. Donc oui, je suis une productrice comblée.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis, vous serez bien accueillis, on l'espère, et on en est sûr d'ailleurs, à Reims. Et à bientôt peut-être sur RCF.
Mais avec grand plaisir, à bientôt. Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et notre maire aujourd'hui est Patrick Simon. Il est maire de Bouleuse dans le département de la Marne. Patrick Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune de Bouleuse? Combien d'habitants à Bouleuse?
Alors, 230 habitants, on va dire, avec les derniers qui vont arriver. C'est une commune qui se développe tranquillement. On n'a pas souhaité avoir une extension massive. D'ailleurs, bon, je vous expliquerai, chemin faisant, je pense, pendant l'interview, les difficultés liées au PLU.
Plan local d'urbanisme.
Plan local d'urbanisme, oui. qui va devenir intercommunal.
D'accord.
Et pour le coup, ce plan local d'urbanisme, il génère, au travers des lois gouvernementales aussi, un certain nombre de restrictions, dont on aura sans doute l'occasion de parler. Mais pour le coup, on a un développement tranquille. Quoi. L'idée, c'est de pas dégager des dizaines de terrains d'un seul coup, parce qu'il faut que les infrastructures suivent. Et malheureusement, les finances des communes rurales ne sont pas forcément au rendez-vous pour ce genre de travaux.
Alors vous, Patrick Simon, comment êtes-vous devenu maire? Vous étiez déjà toujours intéressé par le monde associatif, par les responsabilités? Vous étiez au conseil municipal?
Alors pas du tout, hein, c'est pas dans mon ADN. En fait, si vous voulez, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, moi, dans l'électricité. J'ai travaillé pendant presque 38 ans au sein de DFGDF. Puis en 2013, je travaillais sur Paris, j'avais un poste assez prégnant et donc j'ai décidé de changer un peu, d'orienter ma carrière autrement. Et j'ai créé une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vous voyez, j'étais pas du tout tourné vers... les communes, enfin...
Mais cas, on a fait appel à vous, on est venu vers vous pour que vous soyez maire.
Absolument, en fait, quand le maire en place a su que je quittais mes fonctions et que je créais une société plutôt dans le coin, il est venu me voir pour savoir si ça m'intéresserait d'accompagner la commune pour essayer de travailler un petit peu avec lui.
Patrick...
Sauf que, donc je suis arrivé sur la pointe des pieds en 2014 en me disant je vais être conseiller municipal et puis je vais voir comment ça se passe, mais je me suis retrouvé déjà premier adjoint à ce moment-là, donc j'ai fait un mandat en tant que premier adjoint et puis en 2020...
Et puis vous êtes devenu maire en 2020.
Je suis devenu maire, donc l'idée c'est aussi la relation aux autres qui m'intéressait, vous voyez, le sentiment de pouvoir un peu servir...
Être au service.
Améliorer le quotidien de nos habitants.
Alors,
Surtout, je voulais faire évoluer la commune, mais ça, on pourra en parler.
Comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui? Le type d'activité? Les habitants, des personnes âgées, en retraite, des agriculteurs, des jeunes qui s'installent? C'est quoi Bouleuse aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, Bouleuse, effectivement, c'est une commune où, bah, comme beaucoup de communes rurales, il y a un certain nombre de retraités. Mais au travers, je vous dis, les terrains à bâtir qu'on a lâchés en mode un peu diffus, on a réussi à faire revenir... des jeunes sur Bouleuse, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est une population qui rajeunit, quoi. On a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et on a 30-35 enfants, à peu près, dans la commune, ce qui crée un peu d'animation.
Alors, vous avez une école? Non, vous n'avez pas d'école.
Alors, non, on est rattaché à un groupe scolaire, hein, juste à côté de Bouleuse, hein, le groupe scolaire de Favrol. Et du coup, nos plus petits vont à l'école sur ce groupe scolaire. Ensuite, le collège, en fait, c'est que... Et puis après, le lycée, c'est des lycées.
Alors, est-ce que vous avez senti, puisque vous êtes arrivé au moment du Covid, qu'il y avait une demande, parce que les logements, les maisons sont quand même moins chers qu'à Reims, des jeunes qui disent, ben, si on a un petit jardin, si on a quand même, si on est, j'allais dire, comme on dit un peu familièrement, à l'air, on sera mieux quand même dans une commune rurale. Il y a des demandes dans ce sens?
Oui, oui. Le Covid a changé effectivement un peu la donne. Et c'est aussi en ça que les communes doivent se moderniser. C'est que, alors, c'est fait aujourd'hui presque partout, mais si on remonte il y a 3-4 ans, par exemple, ici à Bouleuse, il n'y avait pas la fibre. Une des principales motivations des gens pour venir habiter à la campagne, et qui plus est maintenant avec le travail à domicile, puisque aujourd'hui le télétravail est quand même particulièrement développé, donc pas question de télétravail sans avoir un réseau Internet qui fonctionne bien, quoi. Donc en fait, ça, c'est vraiment des travaux que moi, j'ai tenu à mettre en place le plus rapidement possible. Et effectivement, ça a du coup attiré des jeunes couples qui voulaient se sortir un peu des villes, qui cherchaient des terrains. Alors, les terrains, effectivement, sont pas chers à Bouleuse, parce que les propriétaires de ces terrains ne souhaitent pas avoir des prix extrêmement élevés, justement pour contribuer à l'essor de la commune. Quoi.
Alors justement, le temps passe très vite avec vous, oui. Patrick Simon, pour aborder les sujets. Juste une petite question, maintenant c'est les communautés de communes, maintenant c'est le Grand Reims. Est-ce que le maire est toujours un peu, entre guillemets, le patron de la commune? Vous connaissez tout le monde à Bouleuse.
Oui, oui. Alors... Si vous voulez, moi je me suis pas positionné comme maire, comme étant un patron. Et c'est pour ça qu'effectivement, je sais que certains de mes confrères se disent qu'ils ont perdu plein de pouvoir. Vous savez, dans nos communes rurales, les possibilités financières ne sont pas
infinies,
quoi. Mmh. Eh ben oui. Donc pour le coup, être dans une communauté de communes, et notamment le Grand Reims, ça m'a permis quand même de passer des dossiers extrêmement importants qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans être intégré dans une communauté.
Alors, avez-vous justement, je vous interromps un peu, parce que le temps passe très vite, Patrick Simon, oui. Avez-vous des projets en cours, à moyen ou à long terme, pour la commune? On imagine la voirie, on imagine peut-être d'autres sujets.
Voilà, alors effectivement, on vient de terminer des gros travaux. J'ai réussi à faire passer le dossier d'assainissement collectif, qu'on appelle pompeusement tout à l'égout, dans une petite commune rurale. On a fait des travaux de renouvellement d'eau potable, parce que le rendement du réseau était plus que médiocre et il y avait des fuites partout. Donc, par les temps qui courent, c'est bien aussi de pouvoir faire des économies. J'ai fait refaire de la voirie également. J'ai fait de l'enfouissement de réseau également. J'ai fait amener la fibre dernièrement. Et on a remplacé presque la moitié dans la commune tous les carrages publics par des LED. Paradoxalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour gagner de l'argent, à terme, il faut investir aujourd'hui. Quand des ouvrages sont trop vieux, si on prend le cas pour l'eau par exemple, s'il y a des fuites partout, c'est pas en vous appuyant sur un réseau d'eau vieillissant que vous allez...
Et certains maires nous disent, Patrick Simon, par exemple, quand vous poserez du goudron. Autrefois, on mettait dans un village du goudron, sur la route, les trottoirs, on s'en fichait un petit peu. Maintenant, il y a l'environnement, il y a le développement durable. Vous essayez quand même peut-être de mettre des plantes, de la végétation. Ces jeunes couples qui viennent, ils sont attachés aussi à tout ça maintenant. C'est très important.
Ils sont très attachés à tout ça. Alors, on travaille, si vous voulez, moi, dans la commune, j'ai réparti correctement les charges. Si vous voulez, je travaille pas tout seul. On est une équipe assez dynamique. Alors, moi, je m'occupe, vous l'aurez compris, du développement communal, des perspectives d'avenir et de tout ce qui pourra ramener de la population à Bouleuse. Mais mon premier adjoint, lui, gère tout ce qui est opérationnel et s'occupe de notre ouvrier communal. Et on a un deuxième adjoint qui s'occupe de toute la partie environnement. Et on est dans le parc régional de la montagne de Reims.
Ce que je vous propose, Patrick Simon, on n'a pas le temps, puisque l'émission s'achève dans moins d'une minute, c'est de nous donner un autre rendez-vous dans quelques semaines pour que vous prolongiez votre réflexion. Simplement, la question qu'on pose à tous les maires, tous les jours, on a un maire d'une commune, et la même question pour terminer, Patrick Simon, est-ce que vous êtes un maire heureux?
Alors, heureux... Je ne sais pas si c'est le terme qui convient vraiment, parce que on est quand même assez contraint dans ce type de...
Il y a toujours des gens qui rouspètent dans une commune. Il y a aussi des gens qui vous encouragent. Alors l'un dans l'autre, c'est la vie, ça.
Écoutez, non, j'ai la chance dans ma commune d'avoir des habitants qui sont très 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 sympathiques.
Comment
très
s'appellent les habitants de Bouleuse, Patrick?
Les Bouleusiens.
Les Bouleusiens. Et les Bouleusiennes et les Bouleusiens, ils vous rendent heureux comme maire quand même. Vous êtes contents.
Ils sont très sympas. On a fait 2 ans de travaux, là je peux vous dire qu'ils ont... Ils ont été très très sympas, ils ont accepté les choses, ils ont bien vu qu'on développait le village également, mais Vous savez, heureux, c'est pourquoi pas, mais en fait, je suis surtout content de pouvoir représenter nos habitants.
Content, c'est déjà pas mal. Hein. Merci en tout cas.
Surtout de défendre la position et le développement du village, c'est ça ma principale préoccupation.
Merci en tout cas, Patrick Simon, maire de Bouleuse, merci d'avoir été avec nous. On vous remercie d'avoir été sur RCF aujourd'hui et à très très bientôt. Au revoir.
Je vous en prie, merci à vous.
Et merci Jean-Pierre Benoît, vous receviez donc le maire de Bouleuse, Patrick Simon. Demain, ce sera le maire de Courlandon, Patrice Morel, que vous recevrez dans le 18-19. Dans quelques secondes, l'édition nationale du journal et le retour de vos programmes locaux sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes à partir de 19h12. Très belle soirée.